Il est 6h20. Savez-vous ce qu'est un pétaflop? Les chercheurs, eux, le savent et ça leur est très utile. C'est une unité de mesure. Un supercalculateur de 16 pétaflops est inauguré ce matin en France sur le campus d'Orsay dans l'Essonne. Cette machine est capable d'effectuer 16 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça correspond à la puissance de 40 000 ordinateurs. Bonjour Philippe Lavocat.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du GENSI, Grand Équipement National de Calcul Intensif. Alors pour le dire simplement, c'est une infrastructure qui permet aux chercheurs et aux industriels d'accéder à de telles machines. C'est d'ailleurs le GENSI qui a financé ce nouveau calculateur. Il va servir à quoi ? Il sert déjà, parce qu'il est inauguré aujourd'hui, mais il est déjà en fonctionnement depuis quelques mois.
Tout à fait, il est en fonctionnement depuis quelques mois sur le plateau de Saclay. Alors à quoi va-t-il servir ? Je vais vous donner une image. Je rentrais il y a 2 jours de Barcelone, où j'avais été coincé par la tempête Gloria. On sait que les événements extrêmes de ce type-là vont se multiplier. Si on veut pouvoir simuler leur intensité, leur impact, leur fréquence, également tenir compte de la topographie, des vents, des températures, de tout ce qui peut se passer autour d'un phénomène aussi extrême, il faut disposer d'une puissance de calcul phénoménale. Vous l'avez dit, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs personnels, l'équivalent. Ça, c'est un exemple. Si vous voulez développer des matériaux nouveaux, par exemple également pour les avions dans lesquels j'étais à ce moment-là, assez chahuté, vous allez vouloir essayer des tas de combinaisons, et bien évidemment, si vous voulez aller assez vite, parce qu'effectivement, je pense que le temps presse désormais, vous allez simuler des milliers de combinaisons, et vous allez venir sur ces ordinateurs. Si vous êtes un médecin, vous allez vouloir regarder par exemple le comportement du cerveau, le comportement de la circulation sanguine. Vous allez encore devoir mettre en place des modèles très complexes et vous allez vouloir disposer d'une puissance de calcul, d'une puissance d'analyse de données très importante. C'est là que l'intelligence artificielle va également intervenir.
Ce que j'ai vu, c'était la spécificité de ce supercalculateur, voilà. C'est que lui, par rapport au précédent, va aider les chercheurs en intelligence artificielle.
C'est une révolution, effectivement, parce que c'est la première fois qu'on va disposer en Europe, c'est la première machine de ce type-là au niveau européen, donc c'est quelque chose qui est important, qui va nous permettre d'unir effectivement cette puissance de feu du calcul avec toutes les méthodologies de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les données, de traiter ces données et de dégager des tendances qui ne seraient pas aussi évidentes et donc d'aider les chercheurs dans beaucoup de domaines, tous ceux que je viens de citer. On pourrait aussi citer le domaine des transports, le domaine de l'énergie, par exemple les simulations autour des batteries. L'avantage également, c'est que vous pouvez également pratiquer ce genre de technique pour d'autres sciences qui arrivent. C'est les sciences humaines, l'aide à la décision. On pourrait parler plus tard d'urgent computing, quand on est devant des phénomènes complexes, où là aussi l'être humain a besoin d'être aidé pour guider son analyse. Voilà, grâce à ces technologies, à l'union de ces deux communautés, on peut résoudre ce type de problème.
Et qui peut l'utiliser ?
Alors, tous les chercheurs des laboratoires scientifiques français peuvent utiliser cette machine, mais également tous les chercheurs du monde industriel qui pratiquent ce qu'on appelle de la recherche ouverte, une recherche nécessitant une publication.
Il faut demander à qui ?
Alors,
il y a
vous
un planning
adressez...
pour le réserver quelques heures ou plusieurs jours ?
Nous travaillons selon deux grandes méthodes et nous avons innové récemment justement avec l'arrivée des communautés de l'intelligence artificielle. Nous avons un premier standard, 2 fois par an nous lançons des appels d'offres dans les communautés scientifiques. Les équipes souscrivent, sont sélectionnées sur la base de l'excellence scientifique et donc 2 fois par an ils obtiennent des dizaines de millions d'heures pour passer sur nos calculateurs. Par ailleurs, l'intelligence artificielle travaille dans un autre mode et donc on a mis en place ce qu'on appelle des accès dynamiques à la demande pour gérer cette communauté.
Donc là, c'est plus rapide.
Là, c'est beaucoup plus rapide
et
avec des accès soit par accès au directeur des centres, soit par une petite analyse assez courte, puisque bien évidemment, vous doutez que ces matériels étant stratégiques, il faut quand même qu'on vérifie un minimum qui souhaite les utiliser et à quelle fin.
Et ça coûte cher de l'utiliser, ce supercalculateur ?
Alors, quand vous êtes un scientifique français, on va dire c'est gratuit. C'est-à-dire que le scientifique ne paie pas de frais. Bien évidemment, ceux qui ont investi dans cette installation, ce sont les associés de GENSI, le CNRS, qui va héberger cette machine et avec qui on va célébrer l'inauguration dans quelques heures, le CEA, l'INRIA, la Confédération des présidents d'université qui représente les universités françaises et bien sûr le ministère en charge de la recherche qui est effectivement notre coordinateur principal.
Donc les chercheurs ne paieront pas un centime, il n'y a même pas de contrepartie, le fait de, je sais pas, de publier les résultats de leur recherche?
Si, c'est pour ça que je vous parlais d'excellence scientifique, c'est qu'effectivement ils vont devoir publier leurs résultats de leur recherche et on rappelle qu'on est donc un outil stratégique pour les aider dans cette compétitivité mondiale scientifique et qui peut aussi être une compétitivité économique pour les chercheurs du monde industriel.
La recherche française en avait besoin de ce supercalculateur, on était en retard par rapport à d'autres pays?
Alors, c'est comme tous les éléments stratégiques dans un pays, c'est une course permanente. Nous faisons la course de façon unie maintenant et collective avec nos homologues européens. Et nous luttons contre effectivement les États-Unis, la Chine, le Japon qui sont dotés de grandes machines de ce type-là. Et suivant les moments dans l'histoire, nous sommes plus ou moins dans le peloton de tête et puis nous revenons au contact. Voilà, c'est une course permanente.
Est-ce que c'est comme pour les téléphones portables ou les ordinateurs classiques, l'innovation va très vite et à peine sur le marché déjà dépassée?
On pourrait dire ça. Certains de nos chercheurs aimeraient bien effectivement qu'on soit toujours effectivement à la pointe du dernier processeur sorti par les fournisseurs. Mais d'un autre côté, il faut voir qu'il n'y a pas que la machine qui compte. Je dirais maintenant, l'or noir du futur dans ce secteur-là, c'est finalement les femmes et les hommes qui vont les faire marcher. Les femmes et les hommes qui vont écrire les codes, les programmes, les applications. C'est-à-dire, je vous citais tout à l'heure un exemple autour de l'analyse, par exemple, du cerveau humain. Les programmes dans ce secteur-là sont très complexes. Vous allez vouloir que, bien évidemment, ces programmes aient le temps de se développer, s'installer, donner donc des résultats. Et le but du jeu, c'est de pouvoir servir ces communautés. Donc, on arrive à un certain équilibre où finalement, on ne change quand même pas la machine tous les ans. Maintenant, on est sur des cycles de 5 à 6 ans.
Une dernière question. Pourquoi l'avoir baptisé Jean Zay, ce supercalculateur?
Alors, le monde scientifique, bien sûr, est immergé dans la société. Il travaille pour le développement des connaissances. Il travaille pour le bien-être futur. Jean Zay a représenté quelqu'un qui, lorsqu'il a fondé le CNRS, a uni le monde politique, donc représentant la société et le monde scientifique. Et le CNRS avait souhaité honorer sa mémoire à cette occasion. Et c'était l'occasion, dans le cadre d'un supercalculateur qui fait ce lien entre le sociétal et le scientifique, d'honorer sa mémoire.
Ancien ministre de la Recherche.
Voilà, ancien ministre.
Merci beaucoup Philippe Lavocat. Je rappelle que vous êtes le PDG du GENSI et vous allez donc assister dans quelques heures à l'inauguration de ce supercalculateur. Merci beaucoup, vous étiez l'invité du 5-7. Il est 6h27.